histoire de peinture. Aujourd'hui, éloge paradoxal de Michel Foucault à travers les Ménines.
Pour poursuivre sur l'anachronisme, il faut tenter de l'éviter, bien sûr, mais être conscient qu'il est inévitable, puisqu'il est dans l'œuvre elle-même, dans l'œuvre elle-même avec ce mélange des trois temps. Donc, il faut intervenir sur l'anachronisme, je dirais peut-être en tentant de le corriger. Non pas de le supprimer, parce qu'on n'y arrivera pas, mais d'abord de le corriger, puis ensuite de l'exploiter. Mais d'abord, de tenter de corriger, autant que faire se peut, la relation inévitablement anachronique de l'historien à son objet. C'est-à-dire, ne pas penser que la lutte des classes existait au XVe siècle. C'est une absurdité, et ça empêche de comprendre les œuvres. Alors à ce moment-là, comment tenter de corriger cet anachronisme? Quelle méthode, la méthode, ça a très bonne presse parfois. Je crois, et là je suis assez proche de Paul Venn, bon, à part bien sûr les lectures permettant de connaître l'iconographie, de connaître les commanditaires, de connaître l'histoire des techniques, tous ces éléments qui permettent, dans le fond, objectivement, extérieurement à l'œuvre, de la situer dans ces conditions historiques passées de production. Et ça, on peut dire, c'est une forme de méthode. Il y a des instruments, ils se sont perfectionnés, et on peut faire de la mauvaise iconographie, on peut se tromper en iconographie, ce qui montre bien qu'il y a une bonne méthode iconographique. Bon, j'aime bien personnellement l'iconographie. Eh bien, même si je pense que l'iconographie ne fait qu'épeler le tableau et ne pourra jamais l'interpréter, il n'en reste pas moins que sans iconographie, on passera à côté d'éléments. Si on prend une annonciation pour une visitation, par exemple, ou une annonciation pour Napoléon au Pont d'Arcole, on n'a aucune chance de pouvoir comprendre l'annonciation de Léonard de Vinci. Bon, mais alors, comment, à part cela, tenter de corriger l'anachronisme? Je ne crois pas qu'il y ait, à part ces méthodes ponctuelles, il n'y a pas de méthode générale. Le terme, je le reprends à Paul Venn, comment on écrit l'histoire, c'est la familiarité. La familiarité avec la culture d'une époque, les pratiques sociales d'une époque, ce qui était possible, vraisemblable, à une époque. Il ne s'agit pas de dire c'était vrai, mais je dis, bon, à force de lire, de relire, de regarder, d'avoir lu des choses extrêmement diverses, on ne retrouvera jamais, bien sûr, l'état d'esprit du Quattrocento du XVe siècle ou du XVIe siècle, mais on aura une plus grande familiarité avec ce que ces gens avaient l'habitude de dire, de penser, de voir dans une œuvre, par exemple. Et cette familiarité, eh bien, je pense, je suis d'accord avec Paul Venn, c'est vraiment un des meilleurs correctifs à l'anachronisme constitutif de ma relation, de votre relation avec les œuvres d'art. Mais ce qui me paraît plus intéressant, ce qui concerne l'anachronisme de la relation d'historien à son objet, et en partie pour l'œuvre d'art, bien, c'est de dire que cet anachronisme, il faut bien sûr tenter de l'éviter, il faut bien sûr tenter de le corriger, mais il faut surtout tenter de l'exploiter. Alors là, c'est une position plus paradoxale par rapport à pas mal d'historiens, disons une conception traditionnelle de l'histoire ou de l'histoire de l'art, dire exploiter l'anachronisme dans lequel je me trouve comme historien du début du XXIe siècle par rapport à une œuvre du début ou de la fin du XVIe siècle. Bien parce que cet anachronisme constitutif de ma relation, qu'il soit matériel ou qu'il soit mental, peut aboutir à des résultats théoriques d'un côté, historiques de l'autre, extrêmement intéressants, je dirais fructueux. Alors je vais prendre un exemple qui est célèbre, c'est celui des Ménines de Velázquez et du fameux texte que lui a consacré Michel Foucault en préface de son livre séminal, Les mots et les choses. Je crois que la date c'est 1965 ou 1966. Bon, vous savez, les mots et les choses, c'est une archéologie du savoir, l'épistémé de la Renaissance, le passage à l'âge classique et à la représentation classique avec le « je pense » qui doit pouvoir accompagner toute représentation. Bien, et Michel Foucault met en exergue ou en emblème de tout cela les Ménines de Velázquez qui ne qualifie après une magnifique analyse, comme représentation de la représentation classique. Bon, c'est un texte célèbre, fondamental, splendide, qu'il faut lire, de toute façon, ou relire, même si on l'a lu il y a 20 ans, il faut toujours le relire, c'est un modèle d'intelligence, de description et d'élégance d'écriture. Bien, c'est un texte en même temps qui est faux. Il est faux historiquement, il est inconcevable hein, que comment dire, le tableau ait pu être pensé de la sorte ou produit avec une telle pensée au moment où il était peint par Velázquez. Et pour une simple raison, c'est que tout le système de Michel Foucault, son interprétation, repose, je cite de mémoire, hein, c'est approximatif, hein, sur, bien sûr, le miroir qui est au fond des Ménines, où se reflète le portrait du roi et de la reine que le peintre est supposé en train de peindre. Hein, vous vous rappelez les Ménines, Velázquez nous regarde, face au tableau, l'espace où nous sommes, avec sur sa droite de son point de vue à gauche pour nous, le revers d'une toile qui a apparemment les mêmes dimensions que celle que nous regardons. Puis dans la salle, vous avez l'infante, avec un groupe de suivantes, d'où les Ménines, dans une pièce éclairée par des fenêtres sur la droite de notre point de vue, et sur un mur de fond, à peu près au centre du tableau, parmi d'autres peintures accrochées au mur qu'on distingue mal, un miroir où se reflètent le roi et la reine d'Espagne. Velázquez est supposé en train de peindre le roi et la reine, etc. Et alors, l'hypothèse de Foucault, sa lecture du tableau, se fonde sur une hypothèse. Il le dit lui-même. Il dit, donc je cite de mémoire, « Il faut feindre que nous ne savons pas ce qui se reflète dans ce miroir. » Nous ne savons pas. Or, historiquement, c'est absolument impossible, puisque ce tableau a été peint à la demande du roi d'Espagne et qui était destiné à son bureau privé. Alors, je ne veux pas imaginer le roi d'Espagne faisant semblant de ne pas savoir que c'est lui qui se reflète dans le miroir qui est au fond. En fait, et je trouve ça passionnant, parce que ce qu'a fait Foucault, et c'est un texte magnifique, ce qu'il a fait, c'est ce que j'appelle démocratiser les Ménines. Il a regardé les Ménines telles qu'elles sont accrochées dans un musée. Effectivement, je peux feindre que c'est moi qui me reflète là-bas. Je peux imaginer que c'est moi, spectateur. Et non, puisque justement, c'était le roi dans son bureau d'été, il était seul spectateur. D'ailleurs, le roi était peint au fond du tableau dans un miroir, mais était aussi le destinataire du tableau, en face du tableau. Bon, et donc, l'idée que je puisse feindre de ne pas savoir ce qui se représente, que donc, etc., c'est parce que c'est là que s'accroche l'idée du sujet, du je pense, qui accompagne toute représentation, c'est faux historiquement. Et pourtant, cet anachronisme de Ménine démocratique, de Ménine muséale, eh bien cet anachronisme a été extraordinairement producteur. Il était producteur non seulement du texte de Foucault, ce qui est déjà une très belle chose, mais il était producteur d'un débat théorique considérable et interminable maintenant sur les Ménines, parce que Foucault a lancé une machine théorique qui fait que toute personne qui a envie de faire la théorie de la peinture, à un moment ou à un autre, va être obligée de s'intéresser aux Ménines. Il a lancé aussi tout un débat pour savoir comment était conçue la perspective des Ménines, où était placé le peintre, où était placé le spectateur, etc. Il y a une masse de textes là-dessus considérable. Et surtout, pour un historien, le texte de Foucault a un mérite considérable, c'est qu'il a obligé les historiens de l'art traditionnels à faire attention aux Ménines. C'est-à-dire, pour pouvoir se débarrasser de l'explication proposée, magnifique, mais erronée historiquement, de Michel Foucault, eh bien, il y a eu un énorme travail des historiens dans les archives, pour comprendre quel était ce tableau. Comment répondre à un texte aussi fort que celui de Foucault quand on est un historien traditionnel, sinon par une étude de documents et d'archives absolument considérables qui permettront de reconstituer la culture, les pratiques sociales, etc. Du tableau. Donc voilà un anachronisme, je trouve, extrêmement, un effet très intéressant de l'anachronisme de Foucault, productif tant au niveau théorique qu'au niveau de la production historique sur les Ménines. En fait, ce qui est intéressant, je vais continuer encore un peu sur les Ménines, ce qui est intéressant, c'est que le texte de Foucault donc est erroné historiquement, mais il n'est pas complètement arbitraire, parce que en fait, il y a eu un piège dans le tableau des Ménines, mais un piège dont Velázquez n'est pas l'auteur lui-même. Alors ça, c'est un peu énigmatique, je veux dire, je m'en explique. Tout ça pour développer une phrase de Hubert d'Amiche que j'aime beaucoup, quand il écrit « La peinture, ça ne montre pas seulement, ça pense. » Et il se trouve que les Ménines, telles que finalement nous les voyons aujourd'hui, elles pensent tout seules et, je dirais, indépendamment de ce qu'a pensé faire Velázquez. Parce que ce que ne savait pas Foucault, s'il ne pouvait pas savoir, parce qu'on s'en est rendu compte lors de la dernière restauration des Ménines, c'est que les Ménines, telles que nous les voyons aujourd'hui, sont en fait le résultat de deux tableaux superposés. Dans la première version, on l'a vu par la radiographie, il n'y avait pas le peintre en train de peindre. Il y avait le miroir, mais il n'y a pas le peintre en train de peindre, il y avait un grand rideau rouge, et il y avait un jeune garçon tendant vraisemblablement un bâton de commandement à l'infante, qui était à ce moment-là juste au centre du tableau. Et à ce moment-là, c'était un tableau dynastique très clair. Il y avait l'infante héritière du trône, et ce miroir au fond, la présence oratique du roi et de la reine comme fondateur, enfin continuateur de cette lignée dynastique, et centré de manière très intelligente dans le programme politique d'un grand tableau dynastique. Et puis, un héritier aîné, Prospero, quelques années plus tard, et à ce moment-là, bien sûr, le trône est revenu à l'héritier mâle et non pas à l'héritier femme. Donc la version dynastique du tableau ne valait plus, on ne peut plus avoir un tableau dynastique, puisque en fait la dynastie était maintenant passée du côté mâle, et c'est à ce moment-là que Velázquez, à la demande du roi, a changé la partie gauche pour nous du tableau, a enlevé le jeune homme tendant le bâton de commandement, s'est peint lui-même en train de peindre quoi ? Ben, supposément le roi et la reine qui sont au fond. Donc le miroir avait changé de fonction, mais garder la même, parce que le roi et la reine demeuraient ces êtres mystérieux, le sujet absolu, je dirais, comme l'a dit, je crois, Louis Marin, dont la présence est à la fois l'origine de toute la représentation, mais est incertifiable dans la représentation. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de tableau commun du roi et de la reine. Les archivistes, les historiens ont cherché. Velázquez prétend qu'il peint le roi et la reine ensemble. Non, il n'y a pas un seul tableau du couple royal en une seule surface peinte. Quand il y a un couple, ce sont deux tableaux séparés en pendant. Mais jamais. Donc Velázquez n'est pas en train de peindre le roi et la reine. En s'ajoutant au tableau, il a fait une fiction courtisane. Comme quoi, deuxième version du tableau, il était en train de peindre le roi et la reine quand l'infante est arrivé, etc. Toutes les anecdotes que suggère le tableau. Mais le problème, c'est que, à partir du moment où c'était un miroir qui était au fond, ce miroir, qui avait une fonction extrêmement précise dans la première version du tableau, version dynastique, ce miroir changeait de fonction. Il devenait anecdotique et courtisan, mais gardait, en fait, sa fonction dynastique. C'est-à-dire que le tableau, lui-même, est un tableau, insoluble, parce que le même objet central, le miroir revêtant le roi et la reine, change apparemment de fonction, mais garde sa première fonction. Et donc, il y a là, si vous voulez, l'analyse de Foucault, fausse historiquement, en fait, est parfaitement légitime. Si on fait vraiment à fond l'histoire du tableau, on se rend compte qu'effectivement, Foucault, ne sachant pas l'histoire détaillée du tableau et ses deux versions, a mis le doigt sur ce qui est, à mon avis, le piège maximum du tableau Les Ménines, c'est que dedans, Velázquez ne respecte pas le principe de base de la peinture classique énoncé par Alberti au XVe siècle. Le peintre n'a affaire qu'avec ce qui se voit. Il représente ce qui se voit sur la lumière du soleil, dit aussi Poussin, donc au XVIIe siècle. Là, en peignant le roi et la reine dans le tableau dynastique au départ, puis en les mettant comme sujet supposé de la représentation dans la deuxième version, Velázquez a joué à l'apprenti sorcier. Parce qu'en fait, le roi et la reine, ils ne peuvent pas être dans le tableau, ils n'y étaient pas non plus dans le premier, ils étaient une allusion dynastique. Et dans le deuxième, anecdotiquement, il deviendrait la présence des modèles en train d'être peints. Hélas, il n'y avait jamais séance de pause à la cour d'Espagne. Hélas, il n'y a pas de tableau double du roi et de la reine, jamais de tableau en couple. Et donc, le tableau lui-même propose une énigme insoluble. Et c'est grâce à Foucault qu'on peut s'interroger de cette façon sur le tableau. Alors évidemment, il est dangereux, ou il peut être dangereux, de vouloir comme ça trouver ce qui légitime dans le tableau du VIIe siècle l'interprétation du philosophe du XXe siècle. De dire, le philosophe se trompe, mais il a raison. C'est charmant, ça peut être brillant, c'est intéressant, ça peut être tout à fait arbitraire et dangereux, parce qu'on peut toujours tout démontrer, on n'a qu'à bien parler, et on arrive à démontrer après ce qu'on veut. Donc l'historien réagit, il dit non, mais je ne peux pas comme historien chercher à mettre l'histoire au service de l'anachronisme. Oui, je ne peux pas, et pourtant, il faudrait peut-être que je le fasse de temps en temps, parce que c'est bien comme ça que l'histoire de l'art s'est faite. Et là, je parle non plus de l'histoire de l'art des historiens de l'art, mais je parle des artistes eux-mêmes. Les artistes, dès lors qu'ils regardent les œuvres du passé, ils n'en ont rien à faire des catégories de l'histoire de l'art. Ils s'approprient les œuvres du passé, comme Foucault s'est approprié les Ménines. Foucault, dans le fond, a réagi aussi en artiste par rapport aux Ménines, en philosophe-artiste, d'une certaine manière. Mais l'histoire de l'art, elle s'est faite de cette façon. Ce ne sont pas des historiens qui ont fait l'histoire de l'art au sens succession des œuvres dans l'histoire. Ce sont des artistes qui ont regardé les œuvres du passé et qui se sont appropriés ces œuvres du passé en fonction de leurs propres souhaits, leurs propres recherches, leurs propres interrogations. Et c'est cet anachronisme-là qui va de Foucault au Ménine pour comprendre si dans les Ménines a pu légitimer Foucault, ou qui ira de Manet à Titien pour voir comment la Vénus urbaine peut légitimer l'Olympia. Cet anachronisme-là, cette pratique historienne, on va dire, de l'anachronisme contrôlé, je ne sais pas comment dire, eh bien là, je crois que c'est aussi une porte passionnante qui s'ouvre à l'histoire de l'art et à la réflexion sur ce que c'est que l'histoire. Parce qu'en fond, l'histoire n'existe pas non plus en dehors des gens qui en font le récit. Il y a une suggestion, mais il faudrait distinguer, je crois que c'est en allemand qu'il y a une différence entre Geschichte et Historie. Geschichte, c'est le récit, Historie, c'est la succession des faits. Eh bien, c'est vrai que l'anachronisme, il est dans la Geschichte, puisque c'est le récit de fait passé, mais il est aussi, en ce qui concerne en tout cas l'histoire de l'art, dans l'histoire, parce que les artistes se sont régulièrement appropriés les œuvres du passé à leur fin propre, et donc en les déformant et en faisant ce que bon leur semblait pour leur propre fin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase d'Hubert d'Amiche, que je viens de citer, la peinture, ça ne montre pas seulement sa panse. Ou alors il a dit aussi la peinture, elle a son poids de peinture. J'aime beaucoup cette formule d'Hubert d'Amiche. Oui, la peinture, ça ne montre pas seulement sa panse, et c'est un objet historique, il n'y a pas de problème, produit à certains moments, dans des conditions précises, etc. Mais la pensée de la peinture peut être au-delà des conditions historiques de la pensée de son temps. Alors, et qu'est-ce que je veux dire, vous remarquerez que sur les enveloppes de disques, par exemple, quand il y avait des enveloppes de disques, maintenant il y a des enveloppes de disques compactes, très souvent, pour illustrer une musique du XVIIIe siècle, on mettait des tableaux du XVIe siècle. J'étais frappé par ça, qu'il y avait un décalage, fait que la musique classique, c'est-à-dire 18e, on va dire, eh bien, était illustrée par des peintures du 16e siècle. Je ne vais pas poser la question, mais je vais essayer d'y répondre aujourd'hui par un autre biais. C'est que tout simplement, la peinture n'ayant pas à conceptualiser, à formuler, il n'y a pas de procès verbal de la peinture n'ayant pas à verbaliser son contenu, eh bien, à la fois peut paraître dépourvu de contenu, être juste une représentation du visible, une imitation, etc., mais aussi, elle peut, par cette représentation du visible, aller plus loin que les... aller autrement, on va dire pas plus loin, mais aller autrement que les concepts du temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de représenter les concepts du temps, elle peut, mais comme elle n'est pas verbalisée, eh bien donc elle peut figurer autre chose que ce qui se conceptualise à l'époque. Et je prendrai un seul exemple dont nous avons déjà parlé, qui est celui de la perspective du point de fuite, du point de fuite où se rejoignent les lignes de fuite. Bon, ce point de fuite, nous savons qu'il est situé à l'infini, parce que les parallèles se rejoignent à l'infini. Bon, eh bien, la perspective, donc, nous montrerait l'infini. Oui, elle nous le montre, mais en même temps, elle ne pouvait pas l'infini n'est pas pensable à l'époque. Il y avait quelques individus qui pensaient que l'univers pouvait être infini, mais c'est pas un concept courant, certainement pas en tout cas celui des peintres de la perspective, certainement pas celui d'Alberti non plus, théoricien de la perspective. Et donc, qu'est-ce qui se passe dès lors que la peinture, elle nous montre en acte, si j'ose dire, l'infini des lignes de fuite se rejoignant au point de fuite là-bas, donc à l'infini, et en même temps, cet infini est impensable sous cette forme-là à l'époque où la perspective se fonde comme technique de représentation. Bien, ça veut dire que les peintres, ou Alberti, ou même Nicolas de Cuse, grand théoricien du monde indéfini, interminé, n'ont pas l'idée de l'infini en acte, mais que la peinture, par ses propres moyens, les montre et qu'elle pense cela. Elle pense par ses moyens qui ne sont pas des moyens conceptuels. Bon, et c'est ça, celui qui est aussi extrêmement intéressant, qui fait de la peinture parfois un objet anachronique par rapport à son temps. Parce que effectivement, les lignes de fuite se rejoignent à l'infini, or, au XVe siècle, l'infini n'est pas pensable par la société contemporaine. Donc la peinture est anachronique par rapport à son propre temps. Elle ne se contente pas de montrer, elle pense, mais elle ne pense pas par des concepts. Elle pense par des figures.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Yves Lehorse, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau.